Nous vivons dans un monde rempli de bruits, n'est-ce pas? Et ces bruits contribuent à la cacophonie de notre monde. Il faut dire que nous sommes capables chaque jour de percevoir des centaines, voire des milliers de sons, puisque notre plage audible humaine est capable de percevoir jusqu'à 400 000 sons différents, pouvant aller de 20 Hz à 20 000 Hz. Parmi tous ces bruits, eh bien, il y a des bruits bienfaisants que l'on répertorie le long d'un arc en son. Par exemple, le bruit blanc ressemble au bruit de nos écrans cathodiques, vous savez, de nos vieilles télés quand il y avait la neige et que l'appareil était mal réglé. Ce bruit blanc sert, par exemple, à masquer les acouphènes. Il y a aussi le bruit rose, qui ressemble au bruit d'une pluie fine, qui, lui, sert à améliorer les troubles du sommeil et favorise la relaxation. Et puis, il y a le bruit bleu aussi, par exemple, qui est utilisé en thérapie bleue et qui ressemble au bruit d'un torrent, par exemple, ou au bruit plutôt des vagues, on va dire. Et ce bruit favorise l'état méditatif et améliore la concentration. Mais il y a également bien des bruits désagréables qui sont souvent source de nuisances et de pollution sonore pour nous. C'est le cas, par exemple, des bruits de la circulation, de la musique qui est trop forte ou bien encore des bruits de chantier. Et le bruit excessif, eh bien, il peut avoir des effets néfastes sur notre santé physique et mentale à court et long terme. Par exemple, il peut augmenter notre niveau de stress. Il peut causer des troubles du sommeil, des problèmes d'audition, de l'anxiété, de la fatigue, voire même éventuellement des problèmes cardiovasculaires. Ainsi, comme le disait saint François de Sales, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Nous savons aussi faire beaucoup de bruit en nous agitant dans l'action. Agir, c'est vrai, c'est quelque chose de nécessaire. Mais parfois, quand nous nous surengageons dans l'action, pour éviter par exemple d'avoir à faire face au vide, au silence, à nous-mêmes, en acceptant de nous arrêter et de nous poser. Pour illustrer cela, nous pouvons penser à Marthe et Marie dans la Bible. Vous connaissez bien ce passage où Marthe s'agite dans tous les sens pour essayer d'honorer ses invités, tandis que Marie s'est posée aux pieds de Jésus pour l'écouter. Et puis, il n'y a pas que les bruits qui sont provoqués de façon bienfaisante ou nocive par notre activité humaine. Il y a aussi les bruits qui sont liés à nos paroles. Nos paroles peuvent être porteuses de vie et de bénédiction pour les autres comme pour nous-mêmes, mais elles peuvent aussi être toxiques. Je ne parle pas seulement des conversations bruyantes que nos voisins peuvent avoir à 1h du matin alors que nous avons désespérément envie de dormir. Non, je pense à ces personnes qui parlent trop, qui parlent pour ne rien dire, ou qui ne parlent que d'elles-mêmes, ou qui des fois font les trois en même temps. Je pense à notre capacité presque innée et incontrôlable de critiquer, d'accuser, de juger les autres, avec des paroles qui font parfois plus de mal qu'une arme. Ainsi, comme le disait Victor Hugo, par exemple, la rumeur, c'est la fumée du bruit. Et puis, il n'y a pas non plus que nos paroles qui émettent des sons toxiques. Le bruit, en particulier, quand il est source de pollution, commence et envahit déjà notre être intérieur par le biais de nos pensées. Parfois, nous nous taisons, mais à l'intérieur, au-dedans de nous, nous discutons fort. Nous confrontons avec des partenaires imaginaires en luttant avec nous-mêmes. C'est ce que l'on appelle le bruit mental. Et là, je pense aux personnes qui ruminent, par exemple, toute la journée, jusqu'à ce que ça finisse par les rendre malades. Je pense à ces personnes qui ne cessent de s'accuser, de se dénigrer, qui sont anxieuses et stressées. Et quand nous faisons le bilan, eh bien, il nous faut bien dire que la plupart du temps, eh bien, tous ces bruits extérieurs ou intérieurs sont plus destructeurs que porteurs de vie pour nous, plus nocifs pour notre santé mentale et physique que bienfaisants. Tous ces bruits forment comme une espèce de voile également qui nous empêche d'accéder dans une certaine mesure et d'une certaine manière à la présence de Dieu. Nos soucis, nos inquiétudes, notre anxiété, notre stress nous perturbent et nous poussent à rechercher et à contrôler nos vies plutôt que de se remettre devant Dieu. Or, Jésus nous invite, par exemple, à ne pas nous inquiéter du lendemain parce que le lendemain prendra soin de lui-même. C'est une manière de dire stop au bruit mental. Faire silence, c'est reconnaître que mes soucis ne peuvent pas grand-chose. Faire silence, c'est laisser à Dieu ce qui est en dehors de ma portée et de mes capacités. Un moment de silence, même très bref, est comme un repos sabbatique, un saint arrêt, une trêve du souci. Nous savons aussi, par exemple, parler, inonder nos moments de prière de paroles, sans être capable de nous taire et de nous mettre à l'écoute du Seigneur. Quand l'apôtre Paul nous encourage, en, par exemple, en 1 Thessaloniciens 5, à prier sans cesse, eh bien, il ne veut pas dire par là que nous devons prier avec des tas de paroles jusqu'à ce que Dieu soit fatigué de nous entendre et réponde à nos demandes comme un père, finalement, accède à la demande de ses enfants qui ne cessent de le harceler pour avoir un bonbon. Non. Et si nous nous laissons guider par le plus ancien livre de prière, les psaumes, nous y trouvons deux formes principales de prière. D'une part, la lamentation et l'appel au secours. Et d'autre part, le remerciement et la louange. Mais de manière plus cachée, il y a un troisième type de prière, sans supplication et louange explicite. Le psaume 131, par exemple, n'est que calme et confiance. Il dit « Je tiens mon âme en paix et en silence. » Plus loin, « Mets ton espoir dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. » Parfois, la prière se tait, parce qu'une communion paisible avec Dieu peut se passer de mots. « Je tiens mon âme en paix et en silence, comme un petit enfant contre sa mère. Telle est mon âme en moi. » Comme un enfant contre est auprès de sa mère qui a cessé de crier, telle peut être mon âme en moi, en présence de Dieu. Alors la prière n'a pas besoin de mots, elle n'a peut-être même pas besoin de réflexion. Faisant silence, nous mettons notre espoir en Dieu. Un psaume suggère que le silence est même une forme de louange. Nous lisons très souvent le premier vers du psaume 65, « La louange te convient, ô Dieu ». Cette traduction est issue de la traduction grecque. Et ce « mais si on prend la version hébreu, par contre, cela donne « le silence et louange pour toi, ô Dieu ». Quand cessent les paroles et les pensées, Dieu est loué dans l'étonnement silencieux et dans l'admiration. Alors, dans notre époque où nous sommes surstimulés, nous devons réapprendre à faire silence dans nos vies. Je n'évoque pas seulement le fait ici de se taire. Il s'agit plutôt de s'engager dans une observation attentive, une réflexion et une communication pour cultiver l'art du silence et pour améliorer notre relation et notre paix, nos relations, pardon, et notre paix intérieure. Le silence, ou plutôt bruit noir, comme on l'appelle des fois, est souvent perçu comme une absence ou un vide. Or, le silence, c'est un phénomène multiforme qui cohabite toujours avec du bruit, avec des mouvements ou avec des formes de langueur. Et la psychologue Olga Lehmann a fait une expérience dans une chambre anéchoïque qui est une chambre spécialement conçue pour absorber tous les sons. Et dans cette chambre, elle a fait l'expérience, Cette expérience qui illustre de manière frappante la nature coexistence du silence avec le bruit. Parce que, malgré l'absence de bruit extérieur, elle a ressenti une conscience accrue des sons subtils, comme par exemple le léger mouvement de ses cils contre son masque facial. Alors, bien sûr, cela nous rappelle l'expérience d'Élie, vous le savez, en 1 Roi 19. Vous vous rappelez le prophète Élie, ce passage bien connu, Élie défie au nom de l'Éternel les prophètes d'Astarté et de Baal, plusieurs centaines. Dieu, par son action puissante et remplie de grâce, fait en sorte qu'il est clairement montré qu'il est le seul vrai Dieu. Et puis Élie prie, alors que dans le pays il y avait la famine, et par sa prière la pluie intervient et permet ainsi au pays d'être apaisé. Et Élie espère ainsi que, grâce à tout cela, eh bien, finalement, le roi Achab et sa femme Jézabel, surtout, qui ne croient pas du tout en Dieu, ben, vont finalement comprendre qu'il est le seul vrai Dieu et vont l'adorer aussi. Mais non, la reine Jézabel, dès le début du chapitre 19, le menace de mort et Élie s'en va dans le désert. Élie alla dans le désert et après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, parce que le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea, but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit « Sors. Tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Jusqu'ici notre lecture. Alors dans ce passage, il y a d'abord la marche, un itinéraire. Se préparer à entendre la parole du Seigneur exige de la patience et du temps. Apprendre à faire silence prend du temps. Rien n'est impossible à Dieu, c'est vrai, mais il est bien rare que Dieu s'adresse et parle aux gens qui sont pressés. Et le goût retrouvé pour les pèlerinages, par exemple cette année 20 000 pèlerins pour le pèlerinage de Chartres le mois dernier, eh bien montre que bien des chrétiens et souvent des jeunes sont prêts à entrer dans la patience et dans la longue préparation de la rencontre. Le second enseignement de ce passage, c'est la discrétion de Dieu. Claudel disait « Il faut parler haut pour qu'on vous entende et il faut parler bas pour qu'on vous écoute. » Dieu parle bas. La discrétion, c'est la marque de sa parole. Pour l'écouter, il faut tendre l'oreille. Écouter n'est pas facile. Et comment s'étonner de ne pas entendre Dieu, puisque nous ne savons si mal écouter notre prochain. Faire silence devant Dieu, ce n'est pas juste nier ou refuser les bruits de nos vies, c'est apprendre aussi à discerner au milieu de tous les bruits intérieurs ou extérieurs qui nous assaillent la voix de Dieu pour retrouver le chemin de la paix et de la réconciliation. Et pour cela, il nous faut apprendre à être attentif à ce qui se passe autour de nous et vivre l'instant présent. Attentif à ce que l'autre me dit et à ce que j'ai à lui dire, tout en étant pleinement présent avec lui. Attentif aussi à mes émotions et à mes pensées, en prenant conscience de moi. Des paroles dites à voix forte se font entendre, c'est vrai, elles impressionnent, mais nous savons bien qu'elles ne touchent guère les cœurs souvent. Au lieu d'un accueil, elles rencontrent souvent plutôt la résistance. L'expérience d'Élie montre que Dieu ne veut pas impressionner, mais qu'il veut être accueilli et compris. Dieu a choisi une voie de fin silence pour parler. Alors, sa parole est plus efficace que jamais pour changer nos cœurs. L'ouragan du mont Horeb fondait les rochers, mais la parole silencieuse de Dieu est capable de briser les cœurs de pierre. Pour Élie lui-même, le soudain silence était probablement plus redoutable que l'ouragan et que le tonnerre. Les manifestations puissantes de Dieu lui étaient quelque part, dans un certain sens, familières. Il les côtoyait plus ou moins tous les jours, entre guillemets. Et c'est le silence de Dieu qui pouvait le déconcerter, qui peut nous déconcerter, parce qu'il est si différent de ce que Élie pouvait connaître et de ce que nous pouvons connaître. Et même si Élie répète encore les mêmes paroles qu'avant, quand Dieu se montre dans le murmure doux et léger, il est fort probable que le ton et les intentions d'Élie en répétant ces paroles ont profondément changé. Le silence nous prépare à une nouvelle rencontre avec Dieu. Dans le silence, la parole de Dieu peut atteindre les recoins cachés de nos cœurs. Dans le silence, elle se révèle plus incisive qu'aucun glaive à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point de division de l'âme et de l'esprit, comme le dit Hébreux 4. Faisant silence, nous cessons de nous cacher devant Dieu et la lumière du Christ va atteindre, guérir et transformer même ce dont nous avons honte. Faire silence relève ainsi quelque part d'un acte de foi, parce que il nous faut accepter de faire confiance à Dieu pour le laisser nous pénétrer jusqu'au plus profond de nous-mêmes, par sa parole. Et c'est vrai, nous cachons beaucoup de choses au fond de nous et qui ne sont pas toujours très belles. Et nous faisons beaucoup de bruit pour les cacher, pour ne pas les montrer aux autres, mais aussi pour ne pas y penser. Mais en faisant beaucoup de bruit, nous ne réglons pas le problème de fond. Nous n'avançons pas sur le chemin, et cela nous ronge petit à petit. Faire silence, c'est ainsi aussi consentir par la foi à laisser Dieu pénétrer en nous pour nous changer. Et ce matin, Dieu t'appelle peut-être à cet acte de foi. Le troisième moment de l'histoire d'Élie est la question fondamentale qui lui est posée et la voix de Dieu qui s'exprime dans un murmure doux et léger au milieu des éléments déchaînés. Pourquoi es-tu ici? Où es-tu? Où en es-tu? Elle rappelle l'interrogation de Dieu dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, où es-tu, Adam? Martin Buber rappelle l'histoire d'un maître hassidique qui, incarcéré sur une dénonciation calomnieuse, reçoit la visite du capitaine des gardes qui lui demande « Mais si Dieu est omniscient, pourquoi, comment cela se fait-il qu'il demande à Adam « Où es-tu ?» Et le rabbin répond que, comme toute parole de la Bible, la question est adressée à tout homme. En tout temps, Dieu interpelle chaque homme. « Où es-tu dans ton monde ?» De ceux qui te sont départis, tant de jours ont passé, et tant d'années. Jusqu'où es-tu arrivé entre-temps dans ton monde ? Et ce matin, Dieu t'interpelle pour te demander peut-être « Pourquoi es-tu là ? Où en es-tu dans ta vie ?» Il t'invite à t'arrêter, à te poser, à faire une parenthèse dans ta vie pour te poser les bonnes questions, pour te mettre à l'écoute de Dieu au milieu du brouhaha de ta vie. Il t'appelle à la contemplation. Et je ne parle pas ici d'une contemplation mystique, mais d'une contemplation telle qu'elle est décrite dans le psaume 8 ou en 2 Corinthiens 3. On va lire. Psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. Au-dessus du ciel, on célèbre ta splendeur. De la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confonde tes adversaires pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce qu'un être humain pour que à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Tout bétail, gros et petit, et les animaux sauvages, tous les oiseaux dans les airs et les poissons de la mer, tous les êtres qui parcourent les sentiers des océans. Éternel notre Seigneur, que ta gloire est admirable sur la terre tout entière. 2 Corinthiens 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Après avoir posé sa question à Élie, « Où es-tu? Pourquoi es-tu ici ?» Dieu l'invite à contempler sa gloire au travers des manifestations de la nature. Contempler, c'est observer attentivement quelqu'un ou quelque chose. C'est méditer sur Dieu. C'est se laisser pénétrer par lui. Dans l'Ancien Testament, et on l'a chanté et on l'a lu aussi dans les psaumes de tout à l'heure, Dieu se dévoilait au travers de la magnificence de sa création. Et à partir du Nouveau Testament, Dieu s'incarne en Jésus et celui qui contemple Jésus contemple Dieu. Contempler Dieu au travers de sa création ou de Jésus, eh bien, nous décentre de nous-mêmes. Nous admirons Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait dans ce monde, dans cette vie, dans notre vie. Contempler Dieu nous amène à considérer nos existences différemment, à retrouver une juste place dans ce monde et dans cette réalité. Le quatrième moment de l'histoire d'Élie est la parole qui change d'une responsabilité et envoie en mission. Il faut avoir le courage de répondre à la première parole sans nous cacher pour entendre la deuxième « va ». Et on ne l'a pas lu, mais après que Dieu ait parlé avec Élie, il va l'envoyer en mission pour oindre Josaphat, etc. La première parole est interrogative, la deuxième est impérative. Faire silence dans nos vies et contempler Dieu nous change, nous transforme, redirige notre vie. Faire silence dans nos vies, ce n'est pas simplement réaliser des actes de silence, par exemple en éteignant notre téléphone portable pendant une heure. Ce n'est pas non plus simplement prendre un temps de calme pour, par exemple, lire un bon livre ou siroter un café le matin en nous levant. Non. Faire silence dans nos vies, prendre patience, s'arrêter, contempler, sont autant de démarches et de processus qui ont pour but de se laisser pénétrer par Dieu, de se laisser pénétrer par sa parole pour être transformé et pour aller d'une manière renouvelée vers soi-même et vers les autres. Le Christ dit « Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jean 15. Nous avons besoin de silence pour accueillir ces paroles et pour les mettre en pratique. Quand nous sommes agités et inquiets, nous avons souvent beaucoup d'arguments et beaucoup de raisons pour ne pas pardonner et pour ne pas aimer. Nous avons ces arguments bien trop facilement. Mais quand nous tenons notre âme en paix et en silence, eh bien ces raisons s'évanouissent. Peut-être nous évitons le silence, nous lui préférons le bruit, des paroles et des distractions, quelles qu'elles soient, parce que la paix intérieure, eh bien c'est une affaire risquée. Elle nous rend vide et pauvre, elle dissout l'amertume et les révoltes, et elle nous conduit au don de nous-mêmes. Silencieux et pauvres, nos cœurs sont conquis par l'Esprit Saint et remplis d'un amour inconditionnel. De manière humble, mais certaine, le silence conduit à aimer. Alors, qu'en cette période estivale, eh bien, nous puissions profiter de ce temps qui est toujours un peu différent pour faire une halte, pour réapprendre l'expérience de faire silence dans nos vies.